Bonjour. Donc, je voulais vous informer déjà que Mathéli Kazakou ne sera pas là. Il est absent du festival, en fait. Donc, voilà, nous serons 3, 4 même. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps nos invités. Donc, à ma droite, Cassandra O'Donnell, grande spécialiste de l'urban fantasy. Nous allons parler aujourd'hui de sa série qui s'appelle Rebecca Akin. Mais elle a par ailleurs écrit une autre série qui s'appelle L'Enfer. C'est bien le titre de la série. Qui a été récompensée tout récemment. À ses côtés, Alice Starling. Il va être question de sa trilogie qui s'appelle Requiem pour Sacha. Et à ses côtés, Kim Newman, donc, le Britannique de notre table, qui est très très grand spécialiste de la littérature et du cinéma vampirique. Et à ses côtés, Jocelyne Bourbonnière, qui est sa traductrice et qui nous interprétera ses propos. Donc, Kim Newman, donc c'est ce qui va nous intéresser, c'est Anno Dracula, bien sûr, cette série, donc qui compte 4 volumes, dans laquelle Dracula et d'autres vampires interviennent, de très nombreux autres vampires à différentes époques. Donc, dans l'Angleterre victorienne pour le premier tome, à la fin de la Première Guerre mondiale, ensuite à Rome. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ces vampires? Pas forcément Dracula lui-même, parce qu'il n'est pas très présent dans la série, mais qu'est-ce qui vous plaît tant dans les vampires, au point de les faire revenir si souvent et d'y consacrer autant d'années à l'écriture de cette série?
I'm not sure if I made the choice. It was a question when the idea for the series started sprouting in my head, which was a long time before I started writing. I realized that there was a difference between vampire stories and Dracula.
Je ne sais pas si j'ai vraiment fait un choix. Donc, l'idée de la série a mûri longuement. J'y ai réfléchi pendant de longues années avant de commencer à l'écrire. Et j'ai eu envie d'explorer la différence entre Dracula et les vampires, parce que
because, still the dominant image of the vampire is Dracula. In every decade, there are like two famous vampires, and Dracula is one of them. There was a period when it was in America, Dark Shadows, and then Anne Rice's books, then maybe Salem's Lot, then Buffy the Vampire Slayer, and Twilight, and True Blood. All, as it were, tied to their own decades, but Dracula was there all the way through. And it's like all other vampire characters define themselves by how alike or different they are to and from Dracula.
L'image de Dracula est vraiment passionnante. Je pense qu'il y a eu dans toutes les décennies au moins deux vampires célèbres depuis Dracula. Et moi, j'ai un petit peu suivi ce qui s'est fait également au cinéma et pas que en littérature. Donc, on a commencé par voir, par exemple, aux États-Unis, Dark Shadows. Ça a été suivi
is I literally unloose him on first Britain and then the world. Each of the books in the series has a different setting in space and time. The first book is London in the 1880s, then France during World War One, then Rome in 1959, and the most recent book takes place in Europe and America. It's in the 1970s and the 1980s.
Le clash chez Bram Stoker a plusieurs manifestations. Il est parfois une chauve-souris, parfois un loup, mais on le voit sous plusieurs formes. Donc déjà, il y avait plusieurs manifestations du vampire chez cet auteur. Et moi, un autre Dracula, eh bien, ma série, ça signifie les années de Dracula. C'est pas sur une seule manifestation de Dracula, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était plutôt de parler de son influence sur le monde, dans son influence sur différents personnages. On le voit à ça, par exemple, c'est Franz Haber-Kersen qui a écrit un roman qui est The Dark Killer Tape, où il traite justement de l'influence de Dracula sur son monde. Chez Bram Stoker, donc mon auteur de référence pour les vampires, il parle très très peu de son influence sur les autres et sur le monde. Et donc j'ai eu envie de traiter cela, moi, dans ma série. Donc tout d'abord, dans le premier tome, il y a l'influence de Dracula au Royaume-Uni, dans le second, donc à Londres, en 1880. Dans le second, je traite de l'influence de Dracula sur la France à l'époque de la Première Guerre. Dans le troisième, Rome, en 1959. Et dans le quatrième livre, l'Europe et les États-Unis, dans les années 1970 et 1980. Donc, mon idée, c'était de parler moins de la personnalité de Dracula tel qu'il est, et plus de son influence sur le monde.
Ça vous plaît de manipuler l'histoire, justement, d'aller d'une période à l'autre? Comment est-ce que vous choisissez l'époque à laquelle vous allez
Very good question. Oddly enough, not often asked. I tend to think one ahead. So I knew the first one was the 1880s in London because that's Dracula. And then I knew the next one was going to be World War One. Because of the title, The Bloody Red Baron. Do you remember the Snoopy versus the Red Baron, that song from the 1960s? Yeah, 10, 20, 30, 40, 50, or more, that one. That title just stuck in the back of my head, and I thought, yeah, okay, the Red Baron's a vampire, great. And that gave me a whole world to play with. And after that, the obvious thing is to do World War II, but I'd already done a war. So I wanted to do something that was kind of fun. I picked Rome in 1959 because of La Dolce Vita, that Fellini film. Also, 1959 is the year I was born, so I wanted to write about that. It was something that's beyond my living memory, but is a part of it. And then actually there are two others stuck in there. There's one set in the 1920s, which is a country house murder mystery. I did a Swinging London 1968 one, which actually is the one I think I feel closest to, because it's the first one set in a period I remember really well. It's the first one where there are characters in there who are people I knew. And then it's the idea that it sort of seeps all over everything. So I think what I've done in this whole series is treat Dracula as a historical character, but also as a cultural character. And it strikes me that in real life, as in the books, he's one of those figures like Karl Marx or Elvis Presley or Hitler or the Beatles that it's impossible to avoid. You almost cannot go through a day without finding some mention of all those people. And Dracula is one of those, especially if you start looking for it, and you see
question qu'on ne me pose pas très souvent, je vais dire. Donc, j'ai commencé à, et je la trouve d'autant plus intéressante. Donc, j'ai commencé, l'idée de la série m'est venue, j'ai commencé par les années 1880. Et ça, c'était pour moi une évidence parce que c'est la période où on a d'abord découvert Dracula, où on l'a découvert en littérature. Ensuite, il m'est venu l'idée, bien sûr, de la Première Guerre mondiale. Ça allait un peu de soi pour moi. Et le titre, Le Baron Rouge, ça m'est venu d'une chanson. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, c'était Snoopy contre le Baron Rouge. Et donc, c'est une chanson qui m'était restée en tête. Et pour moi, ça m'est apparu comme une évidence. Et après, j'ai eu envie de faire Dracula pendant la Deuxième Guerre. Et comme j'avais déjà traité de Dracula pendant une guerre, j'ai pas eu envie de remettre ça. Et donc, j'ai choisi une autre période. J'ai pensé à Rome en 1959 pour Fellini et à Dolce Vita, bien sûr. Et 1959, c'est également l'année de ma naissance. Donc, il y avait un lien personnel ici qui m'amusait. Et j'ai également, pour revenir un petit peu en arrière, parce que j'ai également parlé de... J'ai également un livre qui n'est pas encore disponible en français sur Dracula dans les années 20 et aussi sur Dracula à Londres dans les années 68. Et là, c'était intéressant pour moi parce que c'est une période que je connaissais personnellement et donc j'ai pu parler de personnages dont j'avais été le démon, c'est-à-dire que j'avais vu ce qu'ils faisaient. C'était des personnages qui existaient pour moi et pas uniquement sur le plan historique. Donc j'ai été très attachée à ce livre. Et quand j'ai commencé cette série, je voulais parler de Dracula comme non seulement un personnage historique, mais Dracula comme faisant partie de la culture populaire. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on entende parler de personnages historiques comme Karl Marx, Hitler ou les Beatles. On entend toujours parler de ces personnages-là. Mais on voit aussi Dracula un peu partout. On voit des gens bien mis qui ont des boucles d'oreilles de chauve-souris avec des motifs de chauve-souris. On voit des références à Dracula, mais vraiment absolument partout. Et donc c'est une présence constante dans nos vies, que ce soit au niveau de la publicité ou alors bien sûr des événements comme Épinal. Là, c'est complètement évident qu'on va retrouver Dracula. Donc on a vraiment dans la vraie vie des références constantes à ce personnage historique. Et ça m'amusait de faire cette recherche et de voir comment on pouvait l'aborder aujourd'hui.
Alors, Alice Scarling et Cassandra O'Donnell, il n'y a pas que des vampires dans vos séries, il y a aussi d'autres personnages. Alice Scarling, je ne voudrais pas trop dévoiler l'intrigue, donc je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans le dévoilement des différentes créatures. Est-ce que vous voulez bien nous raconter, un peu nous dire qui est Sacha et sa relation aux vampires, et alors à vous de choisir si vous dites quelles autres créatures interviennent.
Le point de départ de cette histoire, c'est la vie de Sacha, qui est une jeune femme un peu particulière, puisqu'elle est tout d'abord orpheline, abandonnée devant les portes d'un couvent quand elle est tout bébé. Elle est élevée par des nonnes, et un jour, les nonnes sont brutalement massacrées, le couvent part en flammes, et elle est la seule survivante de ce drame terrible. Elle se retrouve à errer dans les rues et puis elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle a vu, ce qui s'est passé au courant. Et elle découvre au bout d'un moment qu'elle a une capacité un peu particulière qui consiste à pouvoir prendre possession du corps des gens. Donc elle touche quelqu'un et elle peut contrôler son corps et en faire ce qu'elle veut. Et à partir de là, elle va également découvrir une réalité à laquelle elle ne s'attendait pas. C'est que le couvent de nonnes a été massacré par des vampires. Au départ, elle ne croit pas à ce qu'elle a vu, et puis elle finit par s'en convaincre le jour où elle va croiser un vampire. Et elle va utiliser son pouvoir pour éliminer les vampires en question et obtenir vengeance. Jusqu'au jour où, donc elle va mener sa vie comme ça, sans vraiment savoir ce qu'elle fait ni d'où lui vient son pouvoir. Jusqu'au moment où elle va croiser quelqu'un qui va être immunisé à son pouvoir, elle va croire que c'est un vampire, ça n'en est pas un, et son erreur va lui coûter assez cher et la propulser vers un destin qu'elle n'imaginait pas avoir. Voilà. Pas trop de spoiler ?
Non, ça va. Cassandra, vous aussi, vous plaisez en fait à mélanger les créatures, donc un peu de vampire et beaucoup d'autres choses, très organisées en clan. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce monde-là ?
En ce qui concerne ma série, en fait, En ce qui concerne ma série, en fait, il y a toutes sortes de créatures. Il y a des chamans.
clans, un peu comme en fantasy, on retrouve des clans d'elfes, de nains, etc. Il y a toute cette politique qui est instaurée dans les clans, leur rapport entre eux et toutes sortes de créatures magiques qui forment un peuple qui vit en marge de la société humaine, à la fois intégré parmi les humains et qui ignore leur existence, et à la fois dans leur propre univers, leur propre clan. Et donc, dedans, effectivement, il y a les vampires qui en font évidemment partie. Et mon héroïne, elle traque aussi bien les vampires que les démons, que d'autres créatures, peu importe. Les humains aussi, éventuellement, qu'ils soient innocents ou non, c'est une sociopathe, donc elle ne s'occupe pas vraiment de savoir. Et c'est tout un univers, mais c'est vraiment une question de politique. On est vraiment, à la limite, ce que j'ai fait, c'est presque de la fantasy, transporter le monde de fantasy dans l'urban fantasy, c'est-à-dire un monde qu'on connaissait déjà, qui avait été installé par Tolkien, etc., etc. Et bien, dans l'urban fantasy moderne, mais c'est à peu près les mêmes rapports qu'on peut retrouver peut-être.
Alors, quand on dit chasseuse de vampires, on pense à Buffy. Pour vous, l'une et l'autre, c'est une référence pour vous?
Mais moi, c'est pas une chasseuse de vampires, en fait. C'est une sorcière de guerre, une maîtresse des éléments. Et pour le coup, elle traque, parce qu'il y a toute une mythologie qui est installée, donc c'est un peu compliqué avec ses déesses, etc. Mais elle a des cibles très précises. C'est pas une chasseuse de vampires spécifiquement. Les vampires, elle les dédaigne en général. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et elle a tort. Ça, on le découvrira après.
Chez moi, oui, Buffy est une de mes grandes influences parce que tout bêtement, j'ai grandi avec. J'ai commencé à regarder Buffy, je devais avoir 12-13 ans. Et oui, j'ai passé toute mon adolescence à suivre ses aventures et tous les samedis soirs à attendre avec impatience la diffusion de l'épisode. Et donc forcément, oui, il y a une inspiration directe dans mes romans de cette série, parce que tout simplement, alors Joss Whedon a expliqué quand il expliquait comment il en est venu à Buffy, le pitch de départ, c'est cette blondinette de film d'horreur qui court dans un cimetière, qui va nécessairement glisser, tomber et se faire dévorer par un monstre. À un moment donné, il a décidé que cette blondinette, en fait, elle va se retourner, elle va avoir un pieu, elle va être tueuse de vampires. Et je trouvais cette idée géniale parce que c'est profondément féministe, tout bêtement, parce que jusqu'à Buffy, des personnages forts féminins, on n'en avait pas énormément, et que je trouve ça génial d'avoir pu grandir avec une figure comme Buffy, parce que voilà, ça permet de ne pas s'enfermer dans un rôle de je serais la blondinette qui court dans le cimetière et qui se fait assassiner par un monstre. Et donc j'ai voulu donner de ça à mon héroïne aussi. Et à un moment donné, effectivement, c'est exactement la même chose. C'est la proie qui devient chasseur. Et donc, elle qui devrait être démunie face à un vampire va, de la même façon que ce qu'a expliqué Joss Whedon, va se retourner et dire « Non, mais en fait, je ne suis pas une proie et je vais te le montrer. » Et voilà.
Ça vous parle, les femmes fortes, qu'elles sont là?
La mienne, elle est un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, ça n'a pas vraiment fait la différence entre le bien et le mal. Du moins qu'elle n'a pas eu d'éducation, elle n'est pas humaine, elle ne ressent pas les émotions et elle apprend à la limite de tome en tome, on voit souvent les héros ou les héroïnes changer tortionneuse, vous avez toutes sortes de créatures étranges. Et donc, c'était important de mettre un brin de normalité. C'est-à-dire qu'elle doit au moins faire semblant d'être humaine. Donc, là, effectivement, elle doit avoir un boulot parce qu'il faut gagner de l'argent. Elle a sa fille, qui est un petit peu particulière, qui elle est une enfant, effectivement, là où les vampires ont joué un très grand rôle. Et qui a un pied dans la mort et dans la vie, donc un peu particulière. Et évidemment, elle est toujours débordée parce que c'est très difficile à la fois de mener ses missions à bien, puisqu'elle gère un petit peu, elle exécute les lois des directeurs, des conseils qui ont été installés. Mais en même temps, elle doit gagner sa vie, elle a sa fille en train de s'occuper. Et la vie quotidienne d'une femme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le boulot, on rentre, on a des enfants, on a les comptes à régler, on a des problèmes à lire, etc. Et je voulais une héroïne qui nous ressemble un petit peu quand même. C'est-à-dire, comme elle n'était pas très humaine, je ne voulais pas qu'en plus elle soit complètement en dehors de cette vie-là.
Alice, c'est pareil pour vous, elle a aussi un emploi du temps bien rempli, votre héroïne, et un quotidien très prenant avec son groupe, par exemple, ses répétitions, laquelle elle arrive régulièrement en retard.
La mienne, elle est. En fait, elle n'a pas une vie si remplie que ça. Elle est. Parce qu'elle gagne sa vie en faisant les poches des gens, en utilisant son pouvoir. Donc voilà, elle n'a pas vraiment besoin d'un vrai boulot. Elle a son groupe. Et puis elle a son activité de vengeance, en fait. Mais
une vie sexuelle bien remplie.
Et une vie sexuelle très bien remplie. Mais je pense que ce qui la rend débordée en fait dans sa vie, c'est qu'elle est complètement paumée. Elle sait pas du tout ce qu'elle fait. Elle se rend pas compte. Elle sait pas en fait comment gérer sa vie. Et moi je trouvais ça, c'était ça qui m'intéressait en fait chez cette héroïne. Ce que je dis souvent, l'idée du roman m'est venue parce que j'ai eu cette idée de pouvoir de possession. J'ai voulu le donner à une héroïne et voir ce qu'elle en faisait. Et très rapidement, en fait, cette fille-là est apparue, elle s'est assise dans mon bureau, elle m'a dit « Ouais, ok, j'ai un pouvoir super sympa, tu vas voir comment tu m'as bien cassé les pieds avec. » Et elle s'est mise à me raconter son histoire, avec sa manière rentre dedans et sans rien laisser, sans rien cacher, en fait. Et très rapidement, donc, je me suis rendu compte que cette fille-là était essentiellement perdue, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle ne savait pas ce qu'elle était, qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Et elle se retrouve soumise à des pressions extérieures de la part de tout le monde, en fait, l'intégralité de son entourage, que ce soit ses amis ou, comme on le découvrira par la suite, sa famille ou les rencontres qu'elle fait. La totalité des gens qui l'entourent veut l'influencer, veut l'emmener dans une direction qui eux les arrange en fait. Et je voulais voir comment elle pouvait devenir sa propre personne, comment elle allait apprendre à être quelqu'un et à exister par elle-même et pas pour les autres.
Un roman d'initiation.
Oui.
Kim Newman, vous, à l'inverse, vous préoccupez pas tant que ça du quotidien besogneux de vos personnages vampiriques. J'ai l'impression que vous vous inscrivez plus dans la légende et que vous avez envie aussi de la prolonger vous-même, cette légende vampirique.
Actually, I'm quite preoccupied with the jobs they do, but the three leading women in the series, one's a social worker who becomes a coroner. One's a journalist and one's a society hostess. And I picked all of those because their jobs enable you to meet a lot of people and go to a lot of places, which enables the books to explore a wider and a complicated society. But one of the things that interested me is in the universe of the novels where vampires are, if not commonplace, are out in the open, is what kind of work could they do? How would society arrange itself to suit them? And sometimes for obvious satirical points, and sometimes, say, in my way, meeting a vampire is a handicap. There are things you have to do that are inconvenient. But there are teacher fighting a kung fu chick with a piece of wood in a country where it's easy to get hold of firearms. So in the fourth book, one of my characters comes up against a guy called Barbie, the vampire slayer, who's kind of like a Californian blonde vampire, and she just pulls a gun, and the vampire slayer says, "Well, that's not fair."
En fait, j'étais très intéressée à la question du travail pour les vampires, de voir quel boulot ils pouvaient faire, quel genre de travail un vampire peut faire. Et bien, pour mes trois personnages féminins principaux, il y en a une qui est une travailleuse sociale, il y en a une qui est journaliste, et il y en a une autre qui tient un salon dans la bonne société. Et j'ai choisi ces personnages parce que c'était des boulots qui leur permettaient de faire beaucoup de rencontres, qui leur permettaient justement d'avoir une activité à l'extérieur avec les autres. Et donc, pour moi, c'était la question que je me posais, s'il existait vraiment des vampires, quel travail ils pourraient faire. Pour moi, c'était intéressant aussi de voir comment ils s'adapteraient à la société, mais comment aussi la société s'adapterait aux vampires, quels seraient les problèmes. Et ça m'a permis, bien sûr, de les envoler satiriques qui m'ont fait beaucoup plaisir. Et pour moi, bon, bien sûr, le vampirisme, ça peut être aussi handicapant, ça va jusqu'à un certain point. Ils ont également des super pouvoirs. J'ai eu envie d'explorer un peu tout ça. J'ai aussi écrit un autre livre qui n'est pas publié en France où j'aborde la problématique de Buffy parce que c'est passionnant de voir que Buffy, en fait, c'est une vampire. On trouve dans Buffy des vampires qui n'ont pas d'armes à feu. Alors là, ce sont des personnages super violents et en Amérique, chacun sait qu'il est très très facile d'acquérir une arme à feu. Et donc, on trouve des personnages super violents en Amérique qui n'ont pas d'armes à feu. Alors moi, ça, je trouvais que c'était assez passionnant parce qu'on voit des héroïnes qui sont adeptes du kung-fu et qui peuvent se battre avec un simple bâton. Alors pour moi, ça, c'était vraiment intéressant. Et donc, dans le quatrième volume, qui n'est pas encore publié en français, j'ai une traqueuse de vampires qui s'appelle Barbie. C'est une californienne blonde et qui pourchasse les vampires avec une arme à feu. Et donc il y a une vampire qui se retourne sur quel tir et qui se retourne et qui dit mais c'est pas juste d'utiliser des armes à feu contre nous. Et donc pour moi c'était une façon en fait d'aborder cette problématique du point de vue de l'Amérique et des armes à feu facilement disponibles.
Et alors justement tout cet attirail entre guillemets vampirique, alors le pieu donc que vous utilisez, mais aussi le soleil, tout ce qui est traditionnellement apparenté aux vampires, qu'est-ce que vous en faites vous? Est-ce que vous prenez ça et puis pas ça? Est-ce que vous faites un peu votre marché? Vous faites comment?
Yeah, it's exactly that. Anybody who sits down to write a vampire novel sits down with this list of rules and ticks off the ones they want to use and looks at some and thinks, I'm not reflecting in mirrors, that's just stupid. Actually, I do use that one, but it's one of the most awkward if you're trying to write a scientifically rational vampire. So yeah, I went through all that, and then I decided I'd have different vampires who have different attributes. I think a stake through the heart will pretty much get rid of anything. Silver bullets, although it's actually for werewolves, it's too poetic not to use. It's something that I've occasionally thought of doing a western in the series. And there's a great anecdote about this guy who wanted to kill Billy the Kid and thought that he was like too tough to kill, so he ground up 16 silver dollars into shotgun shells. Thinking this was the only way he could kill Billy the Kid. In fact, Billy the Kid took the gun away from him and shot him with it. And is reputed to have said, keep the change, Bob. And that struck me as being a great sort of vampire killing image, so I may well do that at some point.
Eh bien, tout à fait. Alors, chaque fois qu'un auteur va aborder les vampires, il regarde la liste des caractéristiques des vampires et puis il choisit, il décide. Bon, par exemple, moi, l'histoire du fait que le vampire est invisible, qu'il ne peut pas se voir dans un miroir, il ne se réfléchit pas dans le miroir, je trouve que c'était parfaitement dur, mais bien sûr, pas choisi, mais il a été. Moi, j'ai pensé, par exemple, au bal d'argent pour tuer les vampires. Mais on sait que ça sert contre les loups-garous et pas nécessairement contre les vampires. Mais je trouvais que c'était trop poétique pour pas l'intégrer à mon roman. Donc, j'ai choisi de le faire. J'ai eu aussi une envie de faire des vampires dans le western. Et il y a cette petite anecdote au sujet de Billy the Kid, qui est un éventuel assassin qui a pris 16 pièces d'argent pour les transformer en balles en se disant c'est la seule manière de tuer Billy the Kid, il est trop fort, rien d'autre, ni on n'y arrivera pas autrement. Quoi. Et la légende veut que Billy the Kid se soit emparé de l'arme de son éventuel assassin, l'est retourné contre lui et l'est tué avec ses balles d'argent. Donc ça n'a pas réussi, mais peut-être pas réussi. Et je trouve que c'est trop bien pour ne pas intégrer ça à un futur roman sur les vampires dans le western.
Quels sont là quand vous inventez vos personnages vampiriques, vous en faites quoi de la légende, du mythe et de tout ce qui va avec?
Je garde quelques petites choses. Le fait qu'il... Alors après, on s'y rattrape effectivement le fait qu'il ne puisse pas être à la... C'est comme ça qu'on le conçoit maintenant. Effectivement, le vampire... ne pas être à la lueur du jour, je l'ai gardé. J'ai évité l'ail, la croix, d'abord parce qu'on se pose toujours la question de oui, mais alors si le vampire est juif, ou alors si il est musulman, parce que la croix, si on n'y croit pas, donc voilà, je me suis dit, il y a quand même des trucs qui vont, ils vont pas coller. Donc, moi qui suis juif, je me disais qu'il n'y a que la croix qui peut faire repousser les vampires, c'est embêtant. Donc, ça, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Mais par contre, pour le fait de la destruction par le feu, oui. Le fait de les abattre avec des balles après, enfin, ou du moins de les affaiblir, parce que c'est quand même très compliqué de continuer à avancer quand on vous met 10 balles dans le crâne, même si on est un vampire, et donc ça les affaiblit, etc. Mon héroïne, elle n'a pas trop de problèmes parce que, au final, comme elle maîtrise, c'est une maîtresse du feu, les vampires, c'est pas vraiment un problème pour elle. Elle les détruit plutôt facilement. Enfin, pas les très très vieux, mais là, c'est encore autre chose. Voilà. Alors après, effectivement, j'ai gardé des marques comme voilà, les vieux vampires, évidemment, sont beaucoup plus difficiles à tuer. Particulièrement un vampire qui, bon, on va prendre un peu de temps, n'est pas tout à fait un vampire, mais Raphaël, qui a 2500 ans, effectivement, c'est un peu coton, d'autant qu'il sort de jour, qu'il vole, et que de toute façon, il n'y a rien qui semble pouvoir l'atteindre. Détruire. Non, mais par contre, il pose un véritable problème. Et sinon, pour les autres, non, elle arrive à peu près à en général à liquider. Mais c'est pareil. Et j'ai gardé le côté où on devient de plus en plus, où ils deviennent de plus en plus puissants avec l'âge.
Et vous encombre cette légende vampirique ou finalement.
Ben, franchement, bon, ben, moi je suis une fan. Moi, j'adorais Bram Stoker. J'aime beaucoup Anne Rice. Je les ai trouvés un peu mièvres. Mais, pas les stats, on est bien d'accord, mais lui, un peu fatigué. Et donc, j'ai gardé, en fait, des vampires. Je me suis dit, bon, voilà, ce sont des anciens humains. Donc, effectivement, on garde des caractéristiques humaines. Et ils se souviennent, évidemment, plus ils avancent dans l'âge, plus ils oublient leur personnalité initiale. Et elle change, évidemment, elle évolue. Mais les tout jeunes, par exemple, gardent exactement les mêmes défauts, les mêmes tics, les mêmes problèmes que quand ils étaient humains. Ils sont devenus vampires, ils sont morts, mais ça ne les a pas changés forcément. Donc, ils gardent des caractères profondément humains, hein, ces vampires. Voilà.
Et vous, Alice, vous en faites quoi de cette légende vampirique?
Eh bien, j'en fais plein de choses. Ce qui est un peu amusant, c'est qu'il y a quelques temps, je ne saurais plus vous dire exactement combien, mais c'était avant la publication de mon premier tome. J'ai assisté à une table ronde comme celle-ci, mais dans le public, où il y avait Kim Newman qui a expliqué son histoire de... voilà, chaque auteur prend sa petite liste et coche en fait les cases en se disant, le soleil oui, tel truc non. Et effectivement, je n'y avais jamais réfléchi en fait en ces termes. Et quand je suis rentré chez moi, quand je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'ai repris mon passage où j'avais mon premier vampire. Je me suis dit, ouais, c'est exactement ça. Et donc, du coup, ma présentation des capacités de mes vampires ressemble exactement à ça, à une checklist. En fait, mon héroïne dit très rapidement le soleil, oui. Les croix, non. Tel truc, oui. Tel truc, non. Et voilà. Et c'est une présentation très réduite. Et c'est grâce à Kim Newman.
Alors,
personnages, en fait. C'est-à-dire que oui, ils ont des capacités en plus, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était leur historique. Donc il y a le chef des vampires qui est de la ville, qui va être l'ennemi principal, en fait, de mon héroïne, sans qu'elle le sache vraiment, et qui va être qui est un très vieux vampire qui va un petit peu dans la tradition de Dracula. C'est un vieux vampire qui vient des pays de l'Est, qui parle avec un petit accent, et en même temps j'ai voulu lui rajouter quelques twists. Donc sa sonnerie sur son... il a un iPhone et il a une sonnerie, c'est Money Money Dada. Donc en pleine séance de torture, son téléphone sonne, et voilà, c'est ça. Et donc il va s'énerver, dire deux, trois injures dans une langue incompréhensible. Et à côté de ça, ses serviteurs ou les autres vampires qui vont occuper la ville, et que mon héroïne Sacha perçoit tous comme des monstres, en fait. Elle est convaincue que tous les vampires méritent de mourir, que ce sont tous des monstres assoiffés de sang, qu'ils n'ont aucune conscience, et elle ne réfléchit pas, absolument pas au fait qu'ils ont pu être humains avant. Elle considère que c'est tous des salopards, comme ceux qui ont massacré le couvent de Nain où elle habitait. Et donc j'ai voulu, en fait, lui faire découvrir que, écoute, Cocotte, en fait, tout n'est pas blanc ou noir, il n'y a pas d'un côté les gentils et d'un autre côté les méchants, et donc à un moment donné, elle va posséder un vampire, elle va se rendre compte que ce mec-là, il y a trois semaines, il était humain, que c'était un mec plutôt sympa, qu'une bagarre a éclaté devant un bar, et qu'il s'est retrouvé pris dedans, qu'il a essayé de séparer l'équipe, et qu'en fait, il y en avait un qui était un vampire et qu'il a transformé. Donc elle va découvrir, en fait, que dans le monde surnaturel, tout n'est pas mauvais. Et c'est ce qui va lui permettre, elle aussi, d'évoluer par rapport à son propre pouvoir, parce qu'elle est convaincue, elle aussi, d'être un monstre, en fait, d'être de la même engeance que ce qui a tué sa famille. Et donc, ça va être c'est la manière, en fait, que j'ai voulu utiliser pour lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas nécessairement un monstre, et que tous les pouvoirs surnaturels qu'elle va croiser dans son monde ne sont pas de mauvaises choses.
Alors, je me disais en vous lisant, par exemple, tous les trois, en particulier vous deux, mesdames, dans un monde si moderne, que asperger un vampire d'eau bénite et le faire disparaître comme ça, c'était pas très crédible. De nos jours, on ne pense pas que l'eau bénite soit vraiment hyper efficace. Et je me disais, peut-être que ça a perdu aussi de sa dimension religieuse, en fait, ce mythe du vampire. Et en disant ça, je me suis interrogée encore, et je me suis dit quand même, Alice, par exemple, vos titres, les titres des différents tomes, c'est quand même Lacrimosa, Dies Irae et Agnus Dei, donc on est quand même dans quelque chose d'un peu religieux. Oui.
Alors, en ce qui me concerne, il y a une mythologie derrière, donc où la religion a peu sa place, c'est-à-dire les religions humaines n'ont pas leur place dans la mythologie qui a été instaurée dans les rites latins, puisque les chrétiens surnaturel, voilà, ont leur propre mythologie, leur propre dieu, etc. Donc effectivement, le problème du religieux s'est pas posé du tout dans ma saga, moi. Maintenant, celle de Thalys, c'est vrai qu'elle est en plein dedans.
Je vais enchaîner là-dessus. En fait, oui, effectivement, je suis d'accord sur le coup de l'eau bénite et ce que tu disais tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on fait des juifs et des musulmans. Dans Je suis une légende de Richard Matheson, effectivement, alors je ne sais pas si vous voyez à peu près l'histoire du bouquin, mais en gros, c'est un type qui a survécu à la transformation de l'intégralité de la population de la planète en vampire, et il est tout seul. Et il va faire des essais au départ de comment il peut affronter les vampires qui l'entourent. Et donc il se pose la question, exactement la fameuse checklist. Hein. Alors le soleil, oui, le pieu, non, le machin, oui. Et à un moment donné, il teste la Bible et la croix, et ça ne marche pas. Et là, il se rend compte qu'en fait, il est en train d'essayer de repousser son voisin, M. Goldberg. Et du coup, il va prendre une Torah et il va la repousser avec sa Torah. Et j'avais trouvé ça assez chouette, et donc j'ai gardé cette idée-là qu'effectivement la croix et l'eau bénite n'ont pas vraiment de sens. Après, chez moi, c'est l'autre partie du récit qui est très orientée religion, parce que on se retrouve à un moment donné avec des anges et des démons c'est pas trop un type, c'est un tout petit peu, mais enfin, il suffit de retourner le tome 2 qui est à 4 que ça ne me semble pas très grave, ça ne tue pas le suspense. Voilà, c'est certifié, ce n'est pas très grave. Mais donc oui, parce que moi j'ai une fascination et une légère obsession sur tout ce qui est la question de la religion. Et donc du coup j'avais très envie d'explorer cette mythologie-là et j'ai une légère inspiration qui me vient de Constantine par exemple. Si vous avez vu le film avec Keanu Reeves, ça m'a énormément marqué cette scène de l'ange Gabriel qui se relève avec ses ailes, qui se déploie derrière, qui est en plus jouée par cette actrice dont je ne me rappelle plus le nom mais qui est très androgyne. Je trouve ça génial et j'avais très envie d'un truc comme ça.
Tilda Swinton.
Oui, thank you. Tilda Swinton. Donc, qui est fabuleuse. Et donc j'avais très envie d'une scène un peu comme ça. J'avais envie d'explorer ces trucs-là. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans quelque chose de très, très religieux. Puis même, effectivement, les titres qui me sont venus. En fait, c'est une espèce de puzzle dont j'avais les pièces dans la tête et que j'ai fini par assembler. Et je ne me rendais même pas compte de l'image que ça faisait au départ quand j'ai commencé. Parce qu'en fait, j'écoutais, ça va faire très pompeux, hein. Actuellement, j'écoute du métal. Mais quand j'ai commencé à écrire la série, j'ai écouté le Requiem de Mozart, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je l'ai écouté en boucle. Et donc, du coup, au bout d'un moment. Je vous assure que le Requiem de Mozart, c'est hyper métal, en fait. Il y a des morceaux. Honnêtement, le dîner tiré. Et qui X-Men 2 commence par une version un peu purgée du Dies Irae et c'est vraiment métal. Donc voilà, donc j'écoutais le Requiem de Mozart. Justine assure à mort. Alors j'entends d'une oreille, je me dis mais elle assure à mort. C'est tout un tas d'inspirations diverses, de choses diverses qui sont ce que je suis et qui se sont assemblées ensemble et qui au bout d'un moment ont fini par faire sens parce que voilà, chaque titre en latin est un mouvement de requiem dont les paroles correspondent au contenu du livre d'un certain point de vue. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu. Donc on peut parfaitement lire les bouquins sans se préoccuper de ça. Mais si on a envie d'y voir du sens, bah il y en a. Donc voilà, faites votre marché.
Kim Newman, cette dimension religieuse chez les vampires, ça vous intéresse? Ça a du sens aujourd'hui?
I'm a fourth generation agnostic, so it's not an aspect of the mythology that grabs me that much. I did use it in the book somewhere, but again, it's one of those things where you have a society with lots of vampires, you have to write some things out because it just becomes absurd. The thing about the cross again is sort of poetic and interesting and useful sometimes. So I say it works on some vampires, but you have to be religious. Usually there's a thing which that crops up in a couple of movies and stories where the cross works in Fright Night, for instance, if the guy holding the cross believes, which I think actually that's quite poetic, but I prefer it the other way. It only works if the vampire believes. Dracula is rather a Catholic character, although deep in his backstory he converts from Greek Orthodoxy to Catholicism in order to get married. But that throbs through Bram Stoker so much. Bram Stoker actually was a Protestant and rather suspicious of Catholicism, but still throws a lot of communion wafers around. And holy water and the trouble with holy water is it sort of, you have to say, does it then depend on how good your priest is? And in the current state of the world, I'm rather more worried about priests than vampires.
Je veux dire que je suis la quatrième génération d'une famille d'agnostiques. la question de la religion ne me passionne pas trop. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant, donc je l'aborde un tout petit peu dans ma série. Je pense que dans une société où les vampires prédominent, cette question devient un petit peu absurde. Par contre, je trouve que l'image de la croix est extrêmement poétique, mais pour ça, il faut qu'il y ait un petit peu de background religieux, d'antécédents religieux pour le vampire. Donc je pense à un film où la croix est très importante, où il semblerait qu'il fallait que la personne qui tient la croix pour éloigner le vampire, il fallait que cette personne soit croyante. Et moi, je préférais inverser l'image, et il faut pour moi que le vampire soit croyant pour que la croix ait un effet sur lui. Donc moi, j'ai préféré aborder l'autre possibilité, l'autre dimension. Donc dans ma série, Dracula se convertit, il est grec orthodoxe, il se convertit au catholicisme pour se marier. Il faut savoir que Bram Stoker était très protestant, et donc on a de l'eau bénite et des hosties tant qu'on en veut dans son roman. Et il fallait aussi que, à cette époque-là, il voyait, puisqu'il était protestant, il pensait que les prêtres avaient énormément de pouvoir. Et moi, je trouve que dans la société contemporaine, on aurait plus raison de se méfier des prêtres que des vampires.
Au départ, ce vampire, c'était une figure subversive, une figure du mal. Aujourd'hui, on évolue vers un vampire beaucoup plus glamour. Vous la trouvez comment, cette évolution, vous?
I think that was inevitable. I think there have always been kind of glamorous vampires. Actually, Lord Roman from Polidori is the vampire. He's sort of very presentable, but he's a seducer. He's a like cartoon of Lord Byron. And so moving to that, it sort of comes somewhere between Nosferatu and Bela Lugosi's Dracula, when Dracula gets a better wardrobe and the cloak and the evening clothes and the slick black hair. And that then seems to have got it. Of course, vampires are supposed to have the power of fascination to entrap their victims, like cobras do, for instance, so that makes them glamorous. The sort of rise of the vampire as a romantic figure is rather peculiar, but there were people who fancy all kinds of stuff, the dangerous kind of fatal man of the Gothic novel was always an interesting figure. I kind of like, at least have some sense that vampires are still dangerous and scary. A world with lots of vampires, there are at least some who even other vampires would be really uncomfortable being in a room with. Because I sort of invoke all different kinds of vampire characters and archetypes, I think that if you were a Twilight or a True Blood or a Lost Boys type of vampire, you would still find Nosferatu really uncomfortable to be around if that's in the corner of your room representing the worst you can be. And I think the kind of the wussy type vampires would find that really difficult. And so I keep going back to trying to find some way of making this all scary again, which we sometimes lose in the fascination and the intricacy and what's interesting about it. Sometimes, I try and get back to just being frightening.
Je pense que c'était inévitable que les vampires deviennent aussi glamour. Mon personnage de Lord Riven, en fait, il est basé sur Lord Byron, donc c'est un grand séducteur, et ça m'amusait de pasticher, en fait, Lord Byron. Et si vous regardez le premier Dracula, Nosferatu et Bela Lugosi dans le rôle de Dracula, où il met de la brillantine et il est super permis dans son beau costume, il devient très charmeur, très séducteur. Il ne faut pas oublier que le vampire doit séduire et fasciner ses proies, un
façon, c'est-à-dire que ça revient toujours. Il y a toujours à chaque génération, effectivement, il y a un nouveau, en général un nouveau type de vampire. Donc, je pense que ça reviendra et que de nouveau, ça fonctionnera en matière éditoriale. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on retrouvera toujours des histoires de vampires qui sont adaptées à chaque génération. Donc, je pense que là, pour le coup, même si c'est le creux de la vague, ça remontera à un moment ou à un autre. Comment il sera celui-là, le prochain, j'en ai strictement aucune idée. Il faut demander aux auteurs plus jeunes. Ils vous diront ça. Moi, les vampires, j'aime beaucoup. Je ne suis pas certaine, par exemple, de réécrire un jour sur les vampires. Voilà.
Kim Newman, est-ce que les vampires sont éternels?
Yeah, that's the point, isn't it? They're eternal and they're shapeshifters as well. So, yeah. We'll have different vampires for at least the foreseeable future. As long as there are different types of vampires coming around, that means my series is going. There are still plenty of areas I've not done much with yet. I've not done India or South America or Japan or China, except in bits, Africa. There are all kinds of vampire stories that I'd like to play with. And I imagine there are plenty of other writers out there who think the same thing.
Non seulement les vampires sont-ils éternels, ils sont également métamorphes, c'est-à-dire qu'on les retrouve sous toutes sortes de formes. Et moi j'espère qu'ils